verset 1er. Ésaïe chapitre 1er, verset 1er. Donc nous sommes au début du livre d'Ésaïe et au début des prophètes. Même si les prophètes ne sont pas placés par ordre chronologique. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoth, sur Juda, sur Jérusalem, au temps d'Ozias, de Jotham, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda. Cieux, écoutez, terre, prêtez l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes. La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adouci par l'huile. Votre pays est dévasté. Vos villes sont consumées par le feu. Des étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux. Ils ravagent et détruisent comme des barbares. Et la fille de Sion est restée comme une cabane dans une vigne, comme une hutte dans un champ de concombres, comme une ville épargnée. Si l'Éternel des armées ne nous avait conservé un faible reste, nous serions comme Sodome. Nous ressemblerions à Gomorre. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prêtez l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorre. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir vos crimes s'associer aux solennités. Mon âme et vos nouvelles lunes et vos fêtes, elles me sont à charge. Je suis là de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice, protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Amen. C'est ce dernier verset qui va nous intéresser, mais je voulais lire tout le début de ce chapitre. Le livre d'Ésaïe, comme tous les autres livres de prophètes, sont des recueils composés de différentes prophéties données en différentes périodes. Et la difficulté pour nous, c'est souvent de les situer, d'essayer de comprendre à qui ça s'adresse, dans quel contexte c'est donné. C'est encore plus compliqué avec Ésaïe, parce que Ésaïe, c'est un prophète qui a une très grande longévité. Et il a connu 5 rois, en plus des rois très divers. Il a connu Ozias, qui fut un bon roi, qui a mal fini. Il a connu Jotham qui fut un bon roi au début, jusqu'à la fin. Il a connu Akaz qui fut un mauvais roi du début jusqu'à la fin. Ézéchias qui fut un très bon roi mais qui a moins bien fini. Et Manassé qui fut un très mauvais roi et qui a un peu mieux fini. Donc dans tout ça, ça complique un petit peu la chose. Les prophètes, ils ont eu pour mission de pallier à la déficience des sacrificateurs et des rois. Ils avaient pour objectif principal de dénoncer le péché, et on voit dans le texte que nous avons lu que Ésaïe pointe bien vers le péché du peuple. Il pointait aussi vers les jugements à venir, les conséquences du péché, mais aussi ils entrevoyaient la grâce. Et c'est pourquoi j'ai voulu aller jusqu'au verset 18. Ce chapitre qui a été placé en introduction n'est pas le premier dans la chronologie. Je crois qu'il a été placé là parce qu'il est caractéristique du ministère d'Ésaïe. Ésaïe, il annonce des jugements à venir, il dénonce le péché du peuple, mais il pointe aussi, et peut-être plus que les autres prophètes, il pointe vers la grâce, il pointe vers la rédemption, il pointe vers la personne de Jésus. On a appelé le livre d'Ésaïe le cinquième évangile. Et c'est vrai qu'il parle de Jésus, bien avant l'heure. Il annonce sa naissance, il annonce ses souffrances, il annonce son ministère, il annonce la croix. Il parle beaucoup sur Ésaïe. Et dans le texte que nous avons lu, ce verset, il va utiliser une image qui m'étonne toujours. Je la reprends. Elle m'a interpellé récemment, il y a 15 jours, quand le pasteur Franck Le Filat devait venir, j'ai vu la neige qui tombait, je me suis dit, il ne va pas venir. Et ça m'a fait réfléchir. Et je suis tombé sur ce verset. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Ce qui m'a toujours interpellé, c'est que cette comparaison se fasse en Israël. Ce n'est pas un pays de neige, ce n'est pas la Haute-Savoie. Hein. Mais la neige tombait de temps en temps, puisqu'il est à un moment donné fait mention d'un soldat de David qui, un jour de neige, est allé tuer un lion dans une citerne. Donc la neige devait tomber de temps en temps. Et puis en Israël, même s'il ne devait pas y avoir souvent de neige, on pouvait voir au loin le mont Hermon, qui culmine à 2800 mètres. Et forcément, on voyait les sommets enneigés. Comme nous, des fois, on a le privilège, mais quand nous étions sur Vienne, en nous éloignant de 200 mètres de notre maison, montant un petit peu, on avait vu sur le Mont Blanc. Et quand nous étions sur Mâcon, on avait aussi vu sur le Mont Blanc, comme quoi, vous voyez. Donc de très loin, on peut voir. C'est toujours étonnant, cette comparaison avec la neige. Mais c'est finalement le blanc plus naturel. Nous, on a beaucoup de blanc. On a des chemises blanches, des feuilles blanches, on a un frigidaire qui est blanc. On a beaucoup de blanc, mais tout ça, c'est du transformé. Mais le seul blanc qui est vraiment naturel, c'est la neige. Après, il est question même de la laine. Mais mettez un mouton dans la neige, vous verrez que le mouton, il n'est pas blanc. Hein. Par contre, la neige, c'est blanc. Et on comprend que cette image, elle est là, même si certains ne devaient pas souvent voir la neige. Elle est là, cette image. Et je crois que le Seigneur c'est ce que je veux proclamer, ça. C'est que le Seigneur, il est capable de pardonner nos péchés et de nous rendre blancs comme la neige. Il y a quelques années, il y avait une publicité sur une lessive. Hein, et ça lavait plus blanc que blanc. Je ne sais pas si une lessive peut laver plus blanc que blanc. Mais le sang de Jésus-Christ peut laver de tout péché. Je voudrais faire quelques points de comparaison, mais pour aider à comprendre les prophéties de l'Ancien Testament, on utilise souvent l'image d'une photo de montagne. Sur une photo de montagne, Les montagnes paraissent les unes sur les autres. Mais en fait, au milieu, il y a des vallées. On ne voit pas le relief. Et les prophètes ont vu les choses de loin de cette manière-là. Ils annoncent des événements, mais des fois, ils ne voient pas les espaces qu'il y a au milieu. Par exemple, la première venue de Jésus est parfois annoncée en même temps que la seconde venue de Jésus. Vous avez des expériences comme le salut et le baptême dans le Saint-Esprit sont des fois confondus dans l'annonce. Il y a des versets qui vous font passer des fois qui vous font un bond de quelques siècles. Parce que les prophètes voient les choses de loin, comme sur un plan écrasé. Mais je crois qu'Ésaïe a quelque chose de plus. C'est que lui, il a vu la même chose, ces montagnes, mais avec des sommets enneigés. Il a vu de loin la grâce. Il l'a annoncée. Il l'a entrevue. Et je voudrais faire quelques points de comparaison entre la neige et la grâce. Je crois qu'en ce moment, je suis en manque de prédication de l'Évangile. On n'a pas les réunions d'évangélisation comme... Et j'ai envie de prêcher la grâce encore. Et je crois que la grâce, c'est quelque chose que beaucoup ont besoin d'entendre. Et même nous qui l'avons expérimenté, on ne doit jamais s'en lasser. Mais toujours y revenir. Et la première chose que je voudrais dire, le premier point de comparaison, c'est comme la neige vient d'en haut, la grâce, elle vient d'en haut. Jacques chapitre 1, verset 16, nous connaissons ce grand et ce beau verset. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation, et nous engendrer selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. La grâce, elle vient du ciel. Les hommes étaient incapables de concevoir la grâce. Les hommes n'ont pu inventer que la religion, un effort inutile pour essayer d'atteindre Dieu. Mais c'est quelque chose de fatigant. La grâce, ça ne peut venir que de Dieu. La grâce, elle vient d'un Dieu qui ne sait que donner. Dieu n'échange pas, Dieu ne vend pas, Dieu ne négocie pas. Dieu donne et il donne abondamment, gratuitement, librement, pleinement. Ça, c'est la marque de notre Dieu. Et je crois que c'est bon de se le rappeler. Elle vient d'en haut et elle nous échappe. La grâce, c'est quelque chose que l'on ne peut pas comprendre tant qu'on n'a pas expérimenté. Certains, ce matin, ont besoin d'expérimenter la grâce dans leur cœur. Ce pardon de Dieu, cette faveur imméritée qui nous dit « Tes péchés sont pardonnés, non pas à cause de ce que tu es, mais parce que Jésus a donné sa vie sur la croix. » Cette grâce, on a besoin de l'expérimenter un jour ou l'autre. Mais une fois qu'on l'a expérimentée, on a besoin de s'y arrêter, de la méditer, de l'assimiler. Je sais personnellement que j'ai eu beaucoup de mal à me caler dans la grâce, parce que la loi et l'esprit religieux est attaché à nous. Mais c'est quelque chose qu'il nous faut réaliser. Elle vient d'en haut. C'est quelque chose qui nous échappe, mais combien c'est grand. Quand on l'a expérimenté, puis quand on l'assimile, je vous invite à la découvrir. Il ne faudrait pas être comme cette témoin de Jéhovah qui me disait un jour, « C'est quoi la grâce ?» Je savais qu'elle ne pouvait pas comprendre, parce qu'il faut être né de nouveau pour la saisir. Mais une fois qu'on l'a goûté, c'est quelque chose qui doit toujours brasser notre cœur, nous remuer. Deuxièmement, la neige, elle recouvre tout, comme la grâce. La neige recouvre l'herbe, le bitume, elle recouvre le toit de la maison, la voiture, elle recouvre le linge que maman a oublié, elle recouvre le ballon que les enfants ont laissé dans le jardin, les outils que papa a laissé traîner, elle recouvre tout. Elle recouvre certaines matières plus vite que d'autres, quand on regarde la neige tomber. On voit que l'herbe est déjà blanche, alors que des fois, le goudron ne l'est pas encore. Mais tôt ou tard, elle recouvre tout. Et bien évidemment, c'est bon de le rappeler, mais Dieu pardonne tous les péchés. Il les recouvre tout. Il recouvre les péchés que je n'arrive pas à me pardonner. Ceux dont j'ai honte encore. C'est bien d'en avoir honte, mais c'est bien de savoir en même temps que Dieu pardonne nos péchés. Dieu pardonne les péchés que j'ai faits même après ma conversion. Parce qu'on voit des fois des chrétiens qui ont beaucoup de mal. Dieu pardonne tous les péchés. Et Dieu fait même mieux que ça. Ésaïe n'est pas le premier à avoir comparé la grâce à la neige ou le pardon des péchés à la neige. Il y a quelqu'un d'autre qui l'a fait. Dans le psaume 51, verset 3, David écrit, et il écrit dans un contexte précis, « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. » David n'avait pas volé un stylo. Il a fait quelque chose d'horrible. Si quelqu'un faisait ça aujourd'hui, on ne lui pardonnerait pas. Il a commis un adultère et il a essayé de camoufler son adultère par un crime. C'est quelque chose de terrible. L'homme, selon le cœur de Dieu, nous dégoûte. Mais à un moment donné, il s'est repenti, il a obtenu grâce. Il ne demande pas seulement à ce que ses péchés soient recouverts, il demande même à ce qu'ils soient effacés. David ressentait l'insuffisance des sacrifices d'animaux et il réclame un autre sang, quelque chose de plus efficace, quelque chose qui va dans la conscience, quelque chose qui va dans le cœur, quelque chose qui va à l'intérieur, quelque chose qui nous permet de relever la tête. Il réclame sans le savoir le sang de Jésus-Christ. Et il y aspire, il le demande. Parce que les sacrifices de l'Ancienne Alliance étaient insuffisants. Les sacrifices de l'Ancienne Alliance ne couvraient pas tous les péchés. Les péchés que David a commis, cela a été sanctionné par la lapidation. Mais la grâce, c'est quelque chose de grand qui recouvre tout et même qui va jusqu'à effacer tous nos péchés. Le sang de Jésus ne couvre pas seulement, il efface toutes nos transgressions. Alors je me permets d'ajouter que cela n'empêche pas que certains péchés peuvent me disqualifier de certains services et me rendre inapte à certaines vocations. Et puis, il faut rappeler aussi que quand bien même je serai pardonné, les conséquences de mes péchés, il va falloir les affronter et les gérer. Si j'ai fait des bêtises ici-bas, il va falloir l'assumer. Et rappelons-nous que finalement, nos péchés, on ne peut jamais vraiment les réparer. Même quand j'ai dit du mal à quelqu'un, je lui ai demandé pardon, le mal, il a été fait. Et même si je répare en partie. Mais c'est bon de se rappeler que la grâce, elle couvre toutes les fautes. Finalement, qu'est-ce que la neige ne peut pas recouvrir ? Ce qui n'est pas exposé, ce qui n'est pas à découvert, ce qui n'est pas mis à la lumière. Et c'est la même chose au niveau du cœur. Les péchés que Dieu ne pardonne pas, ce sont ceux qu'on dissimule. Ce sont ceux que l'on ne veut pas reconnaître. Ce sont ceux qu'on ne veut pas mettre à la lumière. Ce sont ceux-là que Dieu ne peut pas pardonner. Sinon, il pardonne tout. Il couvre tout, il efface. Venez et plaidez. C'est même plaidons, comme si Dieu est prêt à discuter. Alors pas pour négocier sur le péché, mais prêt à nous entendre, à nous écouter et pour pouvoir mieux nous convaincre. Parce que des fois, on a du mal à réaliser. On a tendance à appeler un péché une petite faiblesse, un manquement. On a du mal à dire péché, même tout seul. Quand on a du mal à le dire. Mais Dieu sait nous aider. Il sait de quoi nous sommes faits. Mais il est celui qui veut manifester sa grâce. Non seulement la neige, elle couvre tout, mais elle transforme tout. Et la grâce aussi. La neige a cette capacité à transformer un quartier qui est moche et d'un seul coup, ça devient féerique. Une maison qui n'est pas très belle sous la neige, enfin tout paysage, même qui n'est pas féerique, le devient sous la neige. Et la grâce, elle a cette capacité-là. Non seulement elle efface nos péchés, mais la grâce, elle va jusqu'à notre transformation. Alors il y a une limite. Ce que la neige couvre ou transforme, c'est une manière, je dirais, provisoire. Mais la grâce, ce n'est pas du provisoire. C'est quelque chose de profond. J'aime ce texte de Tite, chapitre 2, verset 11, où il nous est dit que la grâce de Dieu, source de salut, elle nous enseigne à vivre. Elle nous transforme. Elle nous apprend à vivre autrement. Elle fait quelque chose de grand. Il y a des personnes qui rendent témoignage des fois de leur vie et on a du mal à les imaginer ce qu'elles étaient avant. Tellement la grâce a fait quelque chose de grand et de beau. Lorsque Saul de Tarse est devenu Paul, le chrétien, certains ont eu beaucoup de mal à lui faire confiance parce qu'ils le connaissaient d'avant. Mais je me mets à la place de ceux qui ne le connaissaient pas d'avant. Eux, ils avaient beaucoup de mal à imaginer ce que Paul pouvait être avant parce qu'il fut l'apôtre de la grâce. Lui, il avait touché à la loi et il en était écœuré. Et aucunement, il n'y a aucun moment donné, il y a cette tentation de vouloir mélanger loi et grâce, de faire un mix, parce qu'il était allé au bout de la loi. Et il savait que ce n'était pas de ce côté-là qu'il fallait chercher le secours, la protection et la faveur de Dieu. La grâce, c'est quelque chose de grand, quelque chose de beau. C'est quelque chose qui me transforme. C'est aussi quelque chose qui rend même éblouissant. Quand il neige, et que derrière le soleil, il faut vite péter les lunettes de soleil, parce que ça éblouit. Et qu'est-ce que dit la Bible ? La Bible dit que nous sommes des enfants de lumière. Il y a un texte au sujet de Jésus dans Apocalypse chapitre 1er, où nous est dit que le visage de Jésus était éblouissant comme la neige. Et c'est vrai que la neige a tendance à éblouir. Et nous, dans un sens, on doit éblouir. Il y a quelques années, je me rappelle, dans le métro, j'ai vu une personne et je me suis dit, elle, c'est une chrétienne. Et le lendemain, je la voyais dans un rassemblement de jeunesse. C'était, pour moi, ça m'avait interpellé, mais ça m'a montré que la grâce, elle se voit. Et c'est quelque chose qui se reflète. On va pas, alors, c'est pas écrit sur notre front, grâce, hein. Mais ça va transparaître. On va briller comme des lumières. Alors, même si on sait qu'il y a beaucoup de limites et que nous restons des pécheurs graciés, mais quand même, c'est quelque chose. De Corinthiens, chapitre 3, verset 18, nous dit ceci. « Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. » La grâce, elle fait de nous des gens de lumière. Alors, elle nous transforme. Elle nous amène à faire une certaine différence, non pas par notre look, hein, mais par notre manière de réagir, par notre manière de parler, par notre manière d'écrire sur les réseaux sociaux, je viens de le dire, par notre caractère. La grâce, c'est quelque chose qui doit se voir. Et c'est quelque chose qu'on doit chercher à vouloir manifester. Et puis un dernier point, la grâce. La grâce, c'est, ou plutôt la neige. La neige, elle amène le silence. Et la grâce aussi. Pas seulement, la neige n'amène pas seulement le silence parce que dès qu'il neige, on ne sort plus de chez soi. Au contraire, il n'a qu'envie de sortir même. Hein. Les enfants, ils ont envie de sortir. Elle amène le silence certainement parce qu'il y a moins de circulation. Mais elle amène le silence aussi parce qu'elle tombe sans bruit, à la différence de la pluie. Et aussi parce qu'elle couvre le bruit. Elle étouffe le bruit. Et je crois que la grâce, elle produit aussi un certain silence. Il y a un texte qu'on trouve aussi dans les prophètes que j'aime beaucoup. C'est Zacharie qui aura cette vision de Josué le sacrificateur qui comparaît devant l'Éternel. Mais il nous est dit que Satan est à sa droite pour l'accuser. Et il montre les vêtements sales. Et Josué n'a rien à dire. Mais Dieu va intervenir, l'ange de l'Éternel va intervenir. Et il va lui dire, Satan, que l'Éternel te reprime. Et il l'a fait taire. Et Josué fut revêtu. Ses habits furent changés. C'est une illustration de la grâce. Et je crois que lorsqu'on a expérimenté le salut en Jésus-Christ, lorsqu'on a découvert la grâce qui est en Jésus, ça fait taire les accusations du diable. Le diable, il est celui qui va nous chercher certains dossiers. Et des fois même, il n'a pas besoin d'aller fouiller bien loin. Et il cherche à nous accuser, à dire, mais il n'est pas celui qui devrait être. Et il sait le faire. Et je crois que c'est bon de se rappeler ce que la Bible déclare. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et ça, c'est bon de se le rappeler. Alors, ce n'est pas toujours facile parce qu'on veut être sensible à la voix de l'Esprit. On veut faire taire la voix de l'accusateur, mais on ne veut pas faire taire la voix de l'Esprit. L'Esprit de Dieu convainc, mais Satan accuse. Et reconnaissons que des fois, ce n'est pas toujours évident. Il ne faudrait surtout pas fermer la voix à l'Esprit sous prétexte que Satan accuse. Mais en même temps, c'est bon de se rappeler qu'il n'y a plus de condamnation, que nos péchés sont effacés, que Dieu ne les voit plus. Et que même au niveau de la conscience, où la conscience, ça fonctionne souvent comme un tribunal, hein. Alors des fois, ça fuse. Hein. Mais c'est bon de se rappeler que là, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La grâce, c'est Jésus-Christ qui fait taire les accusations du diable. Alors je dis bien, il faut savoir se laisser convaincre, savoir se laisser remuer. La grâce, ce n'est pas pour vivre dans la médiocrité, hein. C'est pour vivre mieux. C'est pour avancer, c'est pour progresser. C'est un véritable moteur. Mais c'est bon de se rappeler qu'elle fait taire les accusations. En partageant cela, pardon, je voudrais dire à quelqu'un, laisse-toi toucher par la grâce de Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un, Jésus-Christ a donné sa vie sur la croix. Et le salut commence par le fait d'accepter ce que Jésus a fait pour toi. Tourne-toi vers Jésus-Christ, reconnais que tu es un pécheur. Tu es incapable de te sauver toi-même. Tu ne peux pas te changer toi-même. Mais Jésus pardonne tes péchés. Viens à lui, sois vrai. Mets les choses à la lumière. Ne joue pas à super chrétien. Mais viens à lui. Et il est celui qui va couvrirait même effacer tes péchés. Je voudrais dire aussi à certains chrétiens qui ont eu des erreurs de parcours, des fautes de parcours, des péchés de parcours. On en a tous, mais certains, c'est notoire. Je voudrais vous dire, vous pouvez venir à Jésus-Christ. La grâce, elle n'est pas seulement pour les nouveaux. Elle ne s'use pas. Et je crois que c'est bon. Même si des fois, on a le sentiment d'en abuser. Mais elle fonctionne. Et elle fonctionne encore plus quand on a le sentiment de ne pas la mériter. Et puis, pour tous les autres, même si on sent qu'on peut se sentir concerné dans la deuxième catégorie, mais pour tous les autres, on veut continuer de l'apprécier, y rester attaché. Il y a ce texte qui dit que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Et je crois qu'on a besoin de l'apprécier, de la serrer dans notre cœur, d'y être attaché. La grâce est quelque chose d'immense, quelque chose sur lequel on a constamment besoin de méditer, de la repasser dans notre cœur. On peut s'approcher du trône de la grâce. C'est quelque chose de glorieux. On va prier le Seigneur maintenant. On va le louer. On va continuer de louer le Seigneur et je crois que ce que j'ai partagé doit amener les frères et sœurs à louer le Seigneur. Mais je voudrais donner aussi la possibilité à certains ce matin de saisir la grâce de Dieu. De dire, Seigneur, je suis un pécheur. Je suis un pécheur parce que c'est mon état. Parce que j'ai fait des choses qui ne sont pas belles. Et j'ai besoin d'être sauvé. J'ai besoin que tu me laves. Je ne peux pas me changer moi-même. Mais je crois que Jésus peut me laver et me transformer. Je crois que si cet appel est peut-être pour un frère ou une sœur, quelqu'un qui a connu la grâce, mais qui s'en est éloigné, et je l'invite à revenir et à se laisser toucher par le Seigneur. Et pour tous les autres ensuite, on va pouvoir louer le Seigneur pour sa grâce, pour le salut. Si quelqu'un se sent concerné et la nécessité de recevoir le pardon des péchés, de se laisser laver par le sang de Jésus-Christ, je l'invite à se mettre debout et je vais prier pour lui ce matin, pour lui ou pour elle. Simplement, je vous invite à prendre position et à recevoir Jésus-Christ. Je laisse quelques instants et on va prier tous ensemble pour que Dieu bénisse ses bien-aimés. Prendre peut-être du courage de se mettre debout, mais c'est bon de recevoir Jésus. Y a-t-il quelqu'un qui veut faire cette démarche? Je l'invite à se mettre debout. N'hésitez pas à vous lever. Quelques-uns se lèvent, mais... Seigneur, tu es celui qui fait grâce aux pécheurs. Ce n'est pas pour rien si le premier qui a bénéficié de la croix, à proprement dit, c'est un brigand qui ne méritait pas du tout. Seigneur, tu es celui qui fait grâce aux pécheurs. Celui qui est vrai avec son péché, qui ne cherche pas à le camoufler, mais qui vient à toi, avec son cœur mis à nu. Je prie pour ceux qui ont besoin de ta grâce et qui se positionnent devant toi en disant, Seigneur, lave-moi de mon péché, transforme-moi, fais de moi une nouvelle créature. Je prie pour que tu les secours ce matin. Je prie pour que tu relèves la tête de celui ou de celle qui a marché avec toi et à un moment donné le péché a repris ses droits. Je prie pour que à nouveau tu rétablisses et tu fasses grâce. Seigneur, merci de bénir ces bien-aimés. Dans le nom de Jésus. Amen. Ensemble, Seigneur, nous te louons. Nous te bénissons parce que ta grâce est quelque chose de grand. Elle recouvre tout. Merci parce que tu as pardonné les péchés, mes péchés. Et je te loue, je te bénis constamment. Je ressens ce besoin de ta grâce. C'est indispensable. Seigneur, merci. Nous te louons pour ce que tu as fait. Que ton nom soit béni. Louange et gloire à ton nom. Amen. On continue de louer le Seigneur. Alléluia.